Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio la présence de Anne Cantino. Bonjour.
Bonjour, bonjour Yves.
Anne, dite la dévoue rêveuse.
C'est ça.
Et qui sera présente au Café Théâtre Andarta ce samedi 7 mars à partir de 18h pour proposer une lecture de La promenade de Robert Walser accompagné de chants a cappella. Alors, ce désir de partager cet auteur, Robert Walser, quel sens a-t-il pour toi ?
Déjà, c'est un auteur qui est très 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 célèbre en Suisse, puisque c'est un auteur suisse-allemand qui est décédé dans les années 50 et qui est fort peu connu en France. Et c'est un auteur que j'ai découvert il y a très longtemps, enfin il y a plus de 30 ans, parce qu'un metteur en scène et auteur français qui s'appelle Joël Joanneau avait monté des adaptations de l'Institut Benjamin Tas et des Enfants Tanner, que moi j'avais pu voir à Strasbourg pendant que j'étais en formation de théâtre à l'École nationale supérieure du Théâtre national de Strasbourg. J'étais élève à l'époque de cette école très, très prestigieuse. Et du coup, on allait évidemment beaucoup au théâtre. L'école est dans un théâtre. Et ensuite, on a travaillé avec ce metteur en scène qui nous avait beaucoup parlé de Robert Walser, qu'il adore. Et puis ensuite, je l'ai un peu oublié. Ses spectacles étaient magnifiques, par ailleurs. Mais j'ai un peu oublié Walser. Et en 2020, pendant le confinement, je me suis remise à la photographie et j'ai commencé pendant le confinement pour trouver comment créer, comment regarder le monde et comment faire avec cet arrêt là. Et je faisais des photographies et je continuais à en faire de détails, de petites choses, de lumière, de petites gouttes d'eau, de pareidolie, c'est-à-dire de choses, de visages qu'on voit dans les arbres, dans les murs, des choses vraiment comment on détourne le regard, des reflets dans l'eau, etc. Et un ami m'a dit « Ah, mais ça me fait penser à Robert Walser ». Et donc, je me suis dit « Tiens, que veut-il dire par là ?» Et j'ai recommencé à lire Walser et j'ai commencé par des nouvelles, parce que Walser a écrit énormément de nouvelles, et je suis tombée sur La promenade. Et je me suis dit que c'était exactement comme ça que je pratiquais mon métier, mon art, mon rapport au monde, et qu'effectivement, Walser est un homme de la lenteur, de l'écoute, de l'observation, du silence, du regard et des choses soi-disant petites, mais qui font toute notre grandeur.
Robert Walser, auteur de La promenade, j'ai commencé à lire ce texte où il sort d'un endroit face à une feuille qui l'angoissait, une feuille blanche qui l'angoissait, ouais. Et donc sort, rencontre quelques personnes, mais rentre dans une librairie ensuite pour pouvoir acquérir le livre que tout le monde adore. Alors, je raconte pas la suite, mais il y a ce côté un peu sauvage aussi de sa
Complètement.
Part.
Complètement. Ben, en fait, c'était un homme marginal. Et moi, c'est ça qui me touche beaucoup, c'est que... en Suisse, il est extrêmement connu, c'est quasiment une star, mais lui, ça ne l'intéressait pas du tout. D'abord, il est né en 1878, si mes souvenirs sont bons. Et il a commencé à écrire assez jeune. Il a dû travailler très vite parce qu'il était orphelin très rapidement. Il a dû soutenir sa famille comme pas mal d'auteurs qui ont écrit très jeune. Ou comme des compositeurs, je pense à Beethoven par exemple, etc. Et en fait, il travaillait, il faisait des petits boulots, des boulots de rien. Son père voulait qu'il soit avoir un boulot qui rapporte, mais lui, ce n'était pas ça qui l'intéressait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était écrire. Et du coup, petit à petit, il a gagné en notoriété. Il est allé à Berlin, il a vécu à Berlin, il a été intégré dans des milieux littéraires, grâce aussi à son frère qui était peintre, son frère aîné, un de ses frères aînés. Et en fait, il n'est pas rentré là-dedans. Il est reparti. Et c'était même Kafka l'avait reconnu. Enfin, il était vraiment au début de sa carrière dans un milieu littéraire comme ça, quand même assez pointu. Et en fait, il est reparti en Suisse. Et il est reparti en Suisse à pied d'ailleurs. Il explique ça notamment dans Les Enfants Tanner. C'est très très intéressant à lire parce que c'est vraiment sa vie, alors un peu romancée, mais. Et donc c'est un auteur qui marchait beaucoup et c'est un auteur du coup qui vivait de petits boulots, donc il travaillait chez des gens très riches en étant secrétaire, intendant, etc. Il faisait leur courrier parce qu'il avait une écriture très belle, il a travaillé comme employé de banque, mais vraiment des boulots pas très glorieux. Mais tout ça, c'était dès qu'il avait un peu d'argent, il se retirait dans une chambre de bonne ou dans une petite maison ou quoi, et il écrivait. Et il a écrit énormément de nouvelles qui ont été publiées dans des journaux, etc. Donc il était assez soutenu, mais effectivement, en même temps, c'était quelqu'un, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui avait un caractère bien trempé, des idées quand même vraiment, voilà, très très, comment dire, très marginale, enfin très très indépendante en tout cas. Très indépendante et tout ce qui est mondanité, société littéraire et tous ces trucs-là, ça ne lui plaisait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il était un peu... Et donc du coup, c'était pas évident pour lui de vivre et pour sa famille de le soutenir parce qu'il l'aidait quand même financièrement. Sa sœur l'a aidé aussi, qui était institutrice. Mais au bout d'un moment, ils n'y arrivaient plus.
Cet être qu'était Robert Walser, est-ce qu'il fait écho aujourd'hui dans notre société?
Ben oui, alors malheureusement ou heureusement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a plusieurs choses. Je pense que lui, il a assumé un choix. Ou en tout cas, il a assumé un état d'être. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Après, c'était une autre époque, c'était un autre monde. Dès qu'il voulait travailler, il trouvait du travail. Maintenant, c'est bien plus compliqué. La culture étant ce qu'elle est, et les financements et le soutien à la culture étant ce qu'il est, parfois on est amené à faire ça, mais pas forcément parce qu'on l'a souhaité. Les politiques culturelles en ce moment sont en train de nous pousser à effectivement devenir des amateurs. Donc il y a des gens qui font du théâtre amateur de façon très choisie, délibérée, parce qu'en dehors du travail, on a envie de faire du théâtre ou de faire toute autre activité. Et puis il y a des artistes professionnels qui ont fait des formations pour ça, qui ont travaillé, qui vivent de ça, et c'est mon cas. Et qui, petit à petit, vu les coupes budgétaires, vu le monde du travail de plus en plus difficile, avec l'âge, les choses qui se restreignent, ce serait pas mal si on trouvait un vrai travail. Il y a toujours ça qui traîne un peu quand même. Et puis, nous, on va faire notre métier, notre truc artistique, on va le faire un peu à la marge, et puis ça ira bien. Et on choisit une carrière artistique, on ne choisit pas la précarité. Et on pourrait souhaiter qu'une politique culturelle digne de ce nom soutienne au contraire la culture et les artistes. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi de lire ce texte. Parce qu'au beau milieu de sa promenade, donc pour rappel, effectivement, comme tu l'as dit au début, Yves, donc l'auteur qui ne se nomme pas, se lève le matin... Et puis, n'arrivant pas à écrire, sort et se promène toute la journée jusqu'au soir où il rentre se coucher et il traverse diverses péripéties, il rencontre diverses personnes, il se rencontre lui-même aussi dans différents états, joie, mélancolie, extase. il est en ville, il est chez des gens, il est dans la nature, il est dans une librairie, il est chez un tailleur, il est chez son banquier, il est chez une dame qui lui offre à manger. Et au beau milieu de tout ça, il va voir son percepteur des impôts. Et son percepteur, et c'est vraiment le cœur de cette nouvelle, son percepteur des impôts veut augmenter ses impôts. Et Walser plaide sa cause en disant qu'il ne comprend pas très bien pourquoi on lui augmente les impôts alors qu'il ne gagne rien. Et en fait, le précepteur lui dit « Mais on vous voit toujours vous promener. » Sous-entendu, vous devez être suffisamment riche pour pouvoir être oisif et vous promener. Toute la journée, vous n'avez pas besoin d'argent, donc vous en avez, donc vous pouvez nous en donner. Et là-dessus, Robert Walser plaide sa cause et plaide la cause des artistes qui ne sont pas forcément toujours en train de faire quelque chose qu'on peut voir, compter, peser et mesurer, comme les cailloux de la Grand Route, comme dirait Maeterlinck dans un autre texte. Mais ils sont en train d'élaborer leur création. Et il le dit d'ailleurs, peut-être que je peux lire un extrait de ce moment. C'est la traduction de Bernard Lortolari. Moi, je lis une traduction de Marion Graff, qui a traduit Robert Walser assez récemment. Il y a, je crois, une dizaine. Enfin, elle a traduit beaucoup, beaucoup Robert Walser pour les éditions Zoé, qui sont des éditions suisses, francophones, et qui traduisent quasiment toute l'œuvre de Walser. Et donc. Alors, je vais prendre ce passage. Savez-vous que je travaille dur, dans ma tête et obstinément, et que souvent peut-être je suis actif au meilleur sens du mot, alors que j'ai tout l'air d'être un individu sans responsabilité, un rôdeur à la mine patibulaire, paresseux, rêveur et indolent, qui se perd dans le bleu ou le vert sans penser ni travailler ? Toutes sortes d'aperçus et d'idées rôdent mystérieusement sur les talons du promeneur, de sorte qu'au milieu de sa marche appliquée et vigilante, il doit s'arrêter et tendre l'oreille, parce que submergé et étourdi d'impressions étranges et par la puissance d'esprit, il éprouve soudain le sentiment merveilleux de s'engloutir dans la terre, tandis que devant ses yeux éblouis et égarés de penseur et de poète s'ouvre un abîme. Et il y en a un autre passage. Alors... Qui est presque plus parlant, en fait. La promenade, répliquai-je, m'est indispensable pour me donner de la vivacité et maintenir mes liens avec le monde, sans l'expérience sensible duquel je ne pourrais ni écrire la moitié de la première lettre d'une ligne, ni rédiger un poème en vers ou en prose. Sans la promenade, je serais mort et j'aurais été contraint depuis longtemps d'abandonner mon métier que j'aime passionnément. Sans promenade, et collecte de faits, je serais incapable d'écrire le moindre compte-rendu, ni davantage un article, sans parler d'écrire une nouvelle. Sans promenade, je ne pourrais recueillir ni études, ni observations. Un homme aussi subtil et éclairé que vous comprendra cela immédiatement. En me promenant longuement, il me vient 1000 idées utilisables, tandis qu'enfermé chez moi, je me gâterais et me dessécherais lamentablement. La promenade, pour moi, n'est pas seulement saine, mais profitable, et pas seulement agréable, mais aussi utile. Une promenade me sert professionnellement, mais en même temps elle me réjouit personnellement. Elle me réconforte, me ravit, me requinque. Elle est une jouissance, mais qui en même temps a le don de m'aiguillonner et de m'inciter à poursuivre mon travail, en m'offrant de nombreux objets plus ou moins significatifs, qu'ensuite, rentré chez moi, j'élaborerai avec zèle. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment pour ça, que pour ce qu'il dit là. C'est-à-dire que souvent, voilà, on s'entend dire, quand même, ce métier, bon, tu vis pas de grand-chose, etc. Moi, ça m'est arrivé de travailler dans des structures, des théâtres très prestigieux, et puis de faire aussi, de travailler dans des compagnies, des jeunes compagnies, des compagnies bien installées. Ce projet que je mène, là, il est déclaré. Je déclare mes cachets, ça veut dire que je paye des cotisations, que chaque fois qu'il y a une recette, la moitié en espèces, en réalité, part dans des cotisations sociales que je suis très heureuse de pouvoir payer. mon employeur ou mon employeuse aussi, qui me permet de maintenir mon activité. Mais c'est effectivement, c'est sous les radars, c'est dans les marges. Et donc, c'est dans cette rencontre des deux choses, entre ce texte et cette pratique, que j'ai voulu défendre ce que c'est qu'une parole d'artiste.
La marche, c'était aussi une passion pour Robert Balzer. Hein. Je crois que c'est un peu comme Icare. Il s'est trop approché du soleil. Hein.
Alors, je ne sais pas. Tu dirais ça, peut-être. Alors, peut-être plutôt de la neige.
Aussi, puisque...
Puisqu'il est mort un 25 décembre en marchant dans la neige. Alors... De toute façon, on parlait tout à l'heure de la marginalité de Robert Walser et de sa difficulté à vivre. Faut aussi savoir que les 30 dernières années de sa vie, il était en asile. Donc il a écrit les premières années de sa vie. Et puis après, justement, ne pouvant plus subvenir à ses besoins et étant aussi dans des mondes parallèles à des moments entre fiction, réalité, entre... Ça aussi, c'est très beau dans la nouvelle, dans la promenade. Hein. Est-ce qu'il écrit ce qu'il a vu? Est-ce qu'il voit ce qu'il écrit? Est-ce qu'il s'est vu lui-même? Est-ce qu'il s'imagine?
Et il s'adresse même au lecteur?
Ah, il s'adresse tout le temps au lecteur. Il y a un jeu avec le lecteur, où il le tutoie, il lui dit « Est-ce que tu es d'accord avec ce que je pense? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis ?» C'est pour ça aussi que c'est très... Moi, ça m'a beaucoup plu de choisir ce texte, parce qu'on sent qu'il y a une oralité et une interactivité avec son lecteur, et donc potentiellement avec le spectateur et la spectatrice qui viennent écouter, qui est jubilatoire. Il y a beaucoup d'humour là-dedans, beaucoup d'esprit. Et beaucoup de malice d'emmener son spectateur, son lecteur plutôt, ou sa lectrice, dans des pistes, des fausses pistes, etc. Et donc du coup, ne pouvant plus forcément toujours subvenir à ses besoins, il a fini par demander à être interné. Et ensuite, c'est sa sœur qui a décidé de l'interner, et donc il est resté 30 ans. En asile à Erisso, dans un asile d'ailleurs qu'il n'avait pas spécialement choisi pour le coup, et en fait où il a décidé de ne plus écrire, où il ne pouvait plus écrire. Et alors on a des témoignages de cette période-là quand même, par un auteur, un écrivain, ami de Walser, qui s'appelait Karl Zelig, qui était son légataire testamentaire, et qui a favoriser l'édition, la parution de ses livres, les traductions aussi de ses livres, et qui faisait tout deux fois par an des longues promenades avec Robert Walser jusqu'à la fin de sa vie. Et on se rend compte qu'en fait, Robert Walser marchait, il a marché énormément pendant ses temps d'écriture, donc comme il le dit, pour recueillir des choses, pour prendre comme un substrat à partir duquel il allait écrire, mais aussi simplement par goût, par nécessité vitale. Et ça l'a poursuivi toute sa vie. Et il avait même obtenu une autorisation spéciale de l'asile, parce que c'était Robert Walser et qui commençait déjà à avoir une certaine notoriété, puis une notoriété certaine. Il avait obtenu le fait de pouvoir au moins sortir une fois par jour, se promener. Et il faisait des promenades extrêmement longues par tous les temps, pluie, vent, neige. Il était toujours... Il y a des photos qui existent qu'on peut trouver sur Internet où il était toujours tiré à quatre épingles. À quatre épingles de son état de assez précaire, donc, mais à quatre épingles quand même, avec son chapeau, son parapluie, ses belles chaussures qui avaient sans doute bien bourlingué. Et donc Karl Zelig le suivait et observait cet homme et en même temps dialoguait avec lui, et il avait encore toute sa tête, paradoxalement, et des idées, justement, comme on disait tout à l'heure, très arrêtées sur certaines choses. Il se renseignait énormément sur le monde littéraire. Il lisait, il connaissait ce qui se faisait, etc. Et il marchait et il discutait avec Karl Zelig, qui a retranscrit tout ça de façon absolument bouleversante. Et puis, la dernière promenade du 25 décembre qu'il devait faire avec son ami Walser, il ne l'a pas faite. Et c'est cette promenade-là pendant laquelle Robert Walser est mort, un 25 décembre 1956, il me semble. Voilà, donc il a été au bout de la limite de ce que son écriture et de ce que sa marche lui proposait.
Il y a d'autres textes de Robert Walser aussi que tu prêtes au public ?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Parce que celui-là me semblait contenir tout son monde. Alors, j'ai fait des coupes dans la nouvelle, parce qu'elle est très longue. Donc, par exemple, typiquement, l'extrait dont tu parlais tout à l'heure
du libraire,
elle n'y est pas. Et d'ailleurs, elle est très, très drôle, parce qu'effectivement, je peux continuer à la raconter. C'est qu'effectivement, il va demander au libraire quel est le livre qu'il faut lire en ce moment.
Un ton très cérémonieux, surtout.
C'est ça. Et alors, bon, Walser a le goût des adjectifs, hein, c'est croustillant, c'est savoureux, sa langue est merveilleuse. C'est pour ça que les traductions sont très difficiles et que celles de Marion Graff est particulièrement réussie, je trouve, parce qu'elle est à la fois très fluide, très parlée, et en même temps, elle retranscrit toute la saveur et la vitalité, la diversité de tous ces adjectifs. Et donc, il demande vraiment... Ce livre, et quand le libraire lui apporte, donc c'est comme s'il lui apportait, je sais pas, le dernier livre de... J'en sais rien, moi je suis pas très forte en livres, mais je sais pas, enfin le dernier Goncourt, par exemple, ou même
un Graal.
Oui, c'est ça. Et ben lui dit, très bien, merci, je n'en veux pas, je le prends pas. Donc c'est vraiment tout Walser. Et en fait, donc, moi j'ai pas pris ce passage parce qu'il a fallu faire des choix. Et je ne sais plus quelle était ta question.
Par rapport aux textes.
Aux autres textes. Et du coup, il y a tout Walser. Il y a son humour, il y a sa mélancolie, il y a sa gourmandise, il y a sa sensualité, son amour des femmes aussi, parce qu'il était très gourmand et sensuel et amoureux des femmes. Alors, sa vie affective, elle était assez mystérieuse. On pense qu'il n'a pas eu des tas de conquêtes. Mais voilà, et dans toutes les nouvelles que j'ai lues, il a écrit beaucoup de très courtes nouvelles où il raconte juste un repas. Il raconte juste l'histoire d'une saucisse qu'il a mangée, qu'il n'aurait jamais dû manger, et que maintenant, elle n'est plus là, alors que s'il ne l'avait pas mangée, elle serait là. Il raconte des choses très, très drôles, très bizarres, et puis aussi des choses, des choses fantastiques. Il voit apparaître des personnages dont il fait des êtres mystérieux, fantastiques, un peu effrayants. Et puis son amour du vivant, de tout le vivant, c'est-à-dire les arbres, les feuilles, les oiseaux, les escargots, les mouches. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, de la terre en fait, de la terre, et son amour et sa férocité vis-à-vis de ses frères et sœurs humains, qu'il ne comprend pas toujours. Il y a un très très beau passage à un moment donné où il dit, alors là pour le coup c'est la traduction de Marion Graff, il dit « N'est-ce pas merveilleux que parfois deux êtres humains parfaitement inconnus au demeurant puissent se parler librement et en confiance ?» N'est-ce pas pour cela que nous autres, habitants de cette folle planète qui reste pour nous une énigme, nous disposons en fin de compte d'une langue et d'une bouche et de la faculté de parler, faculté qui est belle en elle-même. Et donc là, pour moi, il y a tout Walser, c'est-à-dire un être de rencontre, un être de lien et aussi un être de mystère, d'incompréhension et parfois assez féroce.
Il y aura, lors de cette représentation, des chants a cappella aussi. Je ne sais pas si ce sont des chants écrits par Robert Walser, mais dans cet univers, à son époque, la musique avait certainement sa place. Est-ce que, pour toi, c'est aussi le prétexte à proposer quelques chants?
Ben oui, alors en fait, il se trouve que je suis aussi chanteuse et que du coup, j'aime chanter, donc. Et j'aime chanter avec du théâtre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours... Donc, La Dévoreuse, c'est le nom que j'avais donné à l'époque à ma compagnie de théâtre que j'avais créée, qui est maintenant En Sommeil, et avec laquelle j'avais choisi et décidé de monter des spectacles de théâtre musical. Donc, j'ai toujours intégré le chant et la musique à mes... et la création sonore à mes créations de théâtre musical. Et là, de nouveau, je me suis dit que, en fait, c'est comme des parenthèses, c'est comme des respirations, et que le texte est très beau, mais il est aussi très dense, et il demande de la concentration, et puis il sollicite surtout l'auditeur et l'auditrice à des endroits d'intériorité, de questionnement. C'est pas forcément que ça demande de l'attention, c'est juste que ça en prend. Et c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'on va écouter des textes. Et du coup, pour alléger tout ça, pour permettre des respirations, j'ai intégré des textes qui ne sont pas des chansons, pardon, des chants, qui ne sont pas des chants de Walser. J'aurais pu prendre, il a écrit des très courts poèmes, un peu mystiques comme ça, très 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 beaux, mystiques et philosophiques et tout ça, que j'ai failli faire ça, le mettre en musique en interprétant a cappella des mélodies. Mais c'était encore du français, c'était encore du sens. Alors j'ai préféré prendre des textes dans toutes les langues, des chants. Donc il y a par exemple le Voyage d'hiver de Schubert, le premier Voyage d'hiver, Fremd bin ich eingezogen. Il y a un air de Roméo et Juliette de Gounod, donc ça c'est en français. Il y a Speak Low, par exemple, de Kurt Weill, qui est en anglais. Et il y a un air de l'air de Chérubin de Mozart, qui est en italien. Il y a d'autres chants en anglais, enfin, qui permettent à la fois, pour moi, enfin, c'est des chants que j'ai choisis, que je connaissais, que j'aimais, et qui pour moi ont un écho direct avec ce qui vient d'être dit dans la nouvelle, le passage que je viens de dire. Mais aussi qui permettent, comme c'est une langue étrangère, soit pour les gens qui comprennent la langue, ben, de comprendre pourquoi je les ai choisis, soit juste de s'évader, de rêver, de passer dans une autre dimension de sensations et d'émotions. Et pour moi, c'est très important parce que je trouve qu'on n'est pas fait que d'une pièce, on n'est pas fait que d'un morceau. Et le collage de différents types d'écoute, différents types de réception et de sensibilité, ça permet de rendre hommage aussi à nos propres intériorités rapiécées.
De là à entendre un extrait.
Alors là, tu me prends de court. Oui. God knows how I adore life. When the wind turns on the shore lies another day, I cannot ask for more. When the time bell blows my heart and I have scored a better day, where nobody made this war of mine. And the moment that I enjoy a place of love and mystery, I'll be there any time. Oh, mysteries of love, where war is no more, I'll be there any time. Et donc, je laisse les auditeurs et les auditrices et les spectateurs et spectatrices chercher de qui est ce titre. Et s'ils viennent à la lecture demain soir à 18h, au spectacle, eh bien, ils auront la réponse.
La Dévo Rêveuse, donc, c'est le nom de la compagnie que tu avais créée. Ce nom, pourquoi-t-il ?
Alors, pourquoi-t-il ? Eh bien, parce que, en fait... J'ai pas vraiment, enfin, c'est pas que j'ai pas vraiment réfléchi, c'est juste que je cherchais un nom pour ma compagnie et je cherchais un nom qui représente quelque chose pour moi. Et il m'est tombé dessus, en fait. Donc, c'est un mot valise, hein, comme on l'entend, puisqu'il comprend le mot dévoré et le mot rêver, enfin, le mot dévoreuse et rêveuse, plus exactement. Et ça aussi, ben, tu vois, je parlais de patchwork et de collage tout à l'heure, je pense que ben, j'étais super contente de trouver ce mot-là. Du coup, maintenant, ma compagnie, je m'en sers plus trop pour le travail. Quand je suis déclarée soit par les particuliers ou par les lieux qui me déclarent directement via le GUSO, soit par des compagnies qui m'embauchent et qui me déclarent. Mais je garde ce nom parce que j'aime beaucoup me définir comme ça. Donc, je ne sais pas si ça suffit à me définir. J'espère que non. Pardon. J'espère qu'on est plus qu'une dévoreuse et une rêveuse dans la vie. Mais voilà, c'est assez... J'aime beaucoup les mots valises parce que je trouve que ça raconte comment on est plusieurs à l'intérieur de nous.
Avant d'avoir cette compagnie, tu étais diplômée de l'école du TNS.
C'est le Théâtre National de Strasbourg, qui se trouve à Strasbourg et qui se trouve à l'intérieur du Théâtre de Strasbourg. Et c'est une école qui existe depuis de très longues années et qui est une école nationale au même titre que le Conservatoire National Supérieur de Paris.
Et il y a aussi cet aspect pédagogue, donc tu transmets aussi
à mon aune.
Être comédien, comédienne.
Ouais, à mon aune. De temps en temps, je donne des stages, des cours, je fais travailler des gens sur des textes qu'ils ont envie de travailler. En ce moment, je fais travailler une femme qui est un peu plus âgée maintenant, elle a plus de 70 ans, elle veut travailler sur des contes d'Henri Gougaud, alors je la fais travailler et je la fais répéter, ou bien un jeune homme qui est dans un cours de théâtre et qui veut faire des choses plus précises sur des textes qu'il aime, ou bien ça m'arrive régulièrement de donner des cours, des ateliers. Je fais aussi des ateliers d'écriture, en particulier autour de la promenade, justement, où j'invite les gens à écrire une promenade imaginaire ou réelle. On prend un temps de promenade qui dure un temps qu'on se donne. Et puis, à l'issue de ça, chacun écrit. Et ensuite, on lit les choses. Et ensuite, je propose la lecture de Robert Walser. Ou à l'inverse, c'est-à-dire je fais la lecture de Robert Walser. Et ensuite, le lendemain ou d'autres jours, on fait... Enfin, voilà, il y a plein de façons de transmettre comme ça.
Il y a eu aussi... l'accès au cinéma, tu as tourné dans quelques films, notamment, comme tu l'indiques, L'âge des possibles de Pascal Ferrand.
Oui, ça c'était à l'issue de 3 ans d'école nationale à Strasbourg. On fait des spectacles de sortie, donc en l'occurrence, j'en ai fait un, on en a joué un. Donc quand je dis on, c'est notre promotion, quoi. On a joué dans un spectacle de Joël Joanneau, dont je parlais tout à l'heure, à Avignon. Et à l'époque, on avait joué un mois entier, ce qui est maintenant plus du tout le cas, hein. Mais c'était un autre temps. Et donc Pascal Ferrand était venu faire un film, enfin tourner avec nous. Et en fait, l'idée, c'était de nous faire aborder le travail de la caméra, devant la caméra. Et puis, pour elle, le meilleur moyen, c'était de faire un film. Ce film, finalement, a été financé par Arte à l'époque. Et puis, finalement, il a aussi été financé pour sortir en salle. Et voilà, il existe toujours, L'âge des possibles. Je crois que c'est son deuxième film. Elle avait fait Petits arrangements avec les morts juste un peu avant. Et c'est son deuxième long métrage de fiction. Voilà. Et c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, là, par exemple, tu vois, j'ai été jouer à Rocle, en Ardèche. Ça aussi, on pourra en parler éventuellement de comment fonctionne mon projet en itinérance. À Rocle, en Ardèche, j'ai été jouer parce que un monsieur qui habite là-bas et qui est venu l'été dernier écouter la promenade, donc cette lecture que je vais faire demain au Café Théâtre Andarta. Je l'ai faite notamment l'été dernier à Tine, en Ardèche, dans le village perché là-haut, en plein air, parce que je fais aussi les lectures dehors, enfin dans différents cadres. Parce qu'il avait vu L'âge des possibles, il avait vu que je faisais cette lecture, il a eu la curiosité de venir voir, il a aimé, et donc du coup ensuite il en a parlé à ses amis qui habitent à côté de chez lui. Et là j'en viens, j'étais la semaine dernière à Rocle chez ses amis, et voilà, comme ça, c'est comme ça que fonctionne la vie, et c'est comme ça que fonctionne mon projet.
Il y a un autre film aussi, Le promeneur du Champ de Mars.
Oui, absolument.
Une biographie sur Mitterrand.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'était formidable. Hein. J'ai pareil.
Rivette... Qui adorait marcher aussi. Donc,
oui, c'est vrai. C'est pour ça que ce film a été fait sur ses promenades au Champ de Mars. Et en fait, c'est Robert Guédiguian. Guédiguian avait vu L'âge des possibles, d'autant plus qu'il avait coproduit L'âge des possibles avec sa société de production. Et du coup, voilà, j'ai joué dans ce... On s'est rencontrés et j'ai joué dans ce film. Et alors, j'ai un rôle totalement annexe par rapport à Mitterrand, mais qui était joué par Michel Bouquet. C'était une rencontre extraordinaire avec cet homme. J'adorais cet acteur. Et voilà, encore un homme qui avait une... Bon, lui, pour le coup, il n'était pas marginal du tout, mais un rapport à son métier, une exigence et un amour de son art très très élevé et qui transmettait ça. Et ça, c'est, je sais que moi, j'ai pas été élève de lui au conservatoire, puisque d'abord il enseignait plus à l'époque, et puis, mais j'ai entendu parler d'élèves qui l'ont eu comme professeur au Conservatoire national. Je crois que c'était vraiment un très très grand pédagogue, et c'était un très grand partenaire et un très grand acteur. Voilà. Et après, du coup, ce film a été vu par Jacques Rivette. Et Jacques Rivette m'a embauchée pour jouer dans Ne touchez pas à la hache, qu'il avait monté donc avec Jeanne Balibar et Guillaume Depardieu sur le texte de La Duchesse de Langeais. Voilà. Donc voilà. Donc c'était très belles. Je n'ai pas fait énormément de films, mais je suis quand même très contente d'avoir rencontré au moins trois grands réalisateurs, réalisatrices, plus Anne Théron, qui avait fait... ce qu'ils imaginent, qui est un film qui a été extrêmement confidentiel, mais qui m'a permis de rencontrer Marie Trintignant, qui aussi était une magnifique rencontre et que je n'oublie pas.
Tu voulais parler aussi de cet aspect du spectacle en itinérance.
Oui.
Cette proposition, en quoi est-elle liée? Est-ce que c'est uniquement de Robert Walser? Non, tu proposes
aussi
d'autres
auteurs. Non, je propose
d'autres
choses. En fait, j'ai décidé de bouger. Bon, déjà, notre métier d'acteur et d'actrice et de personne du spectacle vivant, et même du cinéma d'ailleurs, nous amène à beaucoup bouger, comme chacun sait. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu... Alors, je ne sais pas si c'est la fonction qui crée l'organe, mais en tout cas... c'est devenu nécessaire pour moi de me déplacer. J'aime beaucoup, beaucoup le nid, le chez-soi, mais j'ai besoin de bouger. Et ce projet, j'ai voulu le faire en itinérance, c'est-à-dire je suis en voiture et je me promène à la fois, exactement comme Walser, à la fois pour moi, pour mon plaisir et pour mon travail. À la fois pour mon travail qui me donne envie de prendre le plaisir de vivre et de contempler ce qui m'entoure et de le découvrir, et à la fois pour cet amour de la découverte et de la rencontre qui me donne envie de faire mon métier. Donc voilà pourquoi aussi ce texte me touche tant, et j'espère qu'il touchera ceux qui viendront, celles qui viendront. Et donc du coup, j'ai créé plusieurs, comme on pourrait dire, un répertoire avec plusieurs textes. Donc il y a La Promenade, il y a un texte de Maurice Maeterlinck qui s'appelle La Bonté Invisible, qui est tiré d'un recueil qui s'appelle Le Trésor des Humbles. Il y a un montage de textes que j'ai fait autour du vivant, avec aussi des textes de Maurice Maeterlinck sur l'intelligence des fleurs. Encore un auteur beaucoup trop peu connu, Maurice Maeterlinck, un peu oublié, un peu désuet comme ça, mais qui écrit des choses qui sont encore absolument, qui sont redevenues très actuelles. Quelqu'un qui avait des ruches et qui regardait les abeilles, qui a écrit un livre sur les abeilles, qui a écrit un livre sur les plantes qui est absolument extraordinaire, sur l'intelligence des fleurs, comment elles trouvent le moyen de se déplacer, de s'accoupler, de se reproduire alors même qu'elles sont figées dans leurs racines. C'est sublime ce qu'il écrit, que j'ai mélangé avec des textes de Baptiste Morisot, des extraits, et puis toujours avec du chant. Il y a un programme aussi autour de Beethoven, de la correspondance de Beethoven. Il y a un projet, il y a un programme aussi qui s'appelle L'errante sévillane, qui est un titre qui ne dit pas exactement ce que c'est, mais qui tourne autour des chansons de femmes des années 30. Donc c'est toute une succession de chansons, de chansons un petit peu connues, de Yvette Guilbert, Lise Gotti, Damia, Fréhel, etc. Avec un fil conducteur que j'ai écrit pour le coup, qui raconte l'histoire d'une femme à Séville et dont le passé pourrait être toutes ces chansons. Il y a un programme aussi qui s'appelle Folk Ballade, sur des chansons irlandaises et des textes, des contes irlandais. Il y a mon propre travail aussi de chanteuse et co-compositrice avec Grégory Hoth et Jacques Charles. Donc ça s'appelle « On ne sait rien de la seconde qui vient » et ce sont mes chansons que je chante a cappella ou avec un accompagnement au piano que j'emporte avec moi comme un playback, que je fais de façon extrêmement légère. Et tout ça fonctionne, donc je suis seule. J'adapte ma mise en scène à chaque fois aux lieux différents. Donc tout à l'heure, je disais, ça peut être en extérieur, dans des jardins, chez des gens qui m'accueillent pour des événements particuliers. Ça peut être dans des cafés-théâtres comme à Andarta demain. Ça peut être dans des librairies, comme hier à Montélimar, à la librairie Champs Libres, où j'ai fait... Il y a aussi voilà, ce programme que j'oubliais, où j'ai fait la poésie chantée. Donc ça, c'est des poèmes très connus qui ont été mis en musique. Par exemple, Le Déserteur, par exemple. L'invitation au voyage par Ferré, par exemple, par Vian Ferré, par exemple, il y avait aussi Prévert Cosma, L'Affiche Rouge, etc., ou bien des chansons plus légères aussi, Le Spectre de la Rose, enfin Théophile Gauthier, enfin, bon, je pourrais en citer 50. Donc hier, voilà, j'étais dans une librairie, c'est dans des librairies cafés, c'est dans des festivals de lecture, au Vence, la semaine dernière, c'était pour un salon des livres et des vents. Enfin bon, voilà. Et donc, c'est au bouche à oreille. Enfin voilà, quand les gens aiment, alors c'est comme s'ils colportaient la bonne nouvelle, et moi avec, de transporter ces textes de lieu en lieu, en tentant, en espérant et en faisant boule de neige.
Nous pourrions t'entendre encore longtemps, mais le temps passe.
Le temps passe.
La photographie, est-ce que c'est aussi un accessoire de cette itinérance, de prélever un peu les territoires que tu visites
ou... Oui, alors c'est plus qu'un accessoire, c'est pareil, c'est un essentiel. C'est-à-dire que moi j'ai toujours... Alors je prends des photos de façon très aléatoire, parfois beaucoup, parfois pas. Parfois j'oublie mon appareil photo et du coup je prends les photos dans ma tête. Parfois je le prends et je... C'est pour ça que c'est très compliqué de se promener avec moi. Par exemple, les gens qui font de la randonnée, je leur déconseille fortement de partir marcher avec moi parce que je marche très lentement, je m'arrête vraiment souvent et je prends des tonnes de photos de toutes petites choses, de cailloux, de pierres, je tourne autour, je cherche. Et du coup, voilà, ça fait partie vraiment... Mais c'est venu vraiment, entre autres, du confinement, j'en faisais avant, mais parce que tout d'un coup, il a fallu sortir de ma tête. Sortir de cette angoisse, de cette inquiétude, de cette incertitude. Et en fait, ça ne s'arrête pas, l'envie de sortir de l'angoisse, surtout en ce moment. Et donc, du coup, je pense que, et encore, il y a pire que nous, mais il faut trouver. Là, il y a des personnes, par exemple, que je suis sur Instagram, qui habitent à Gaza, dans des tentes. Et en particulier, il y a un homme qui s'appelle Ahmed Mouine, qui est professeur de musique, et qui a une école de musique avec des jeunes gens, des enfants, et il continue à chanter, il continue à faire de la musique. J'invite vraiment les gens qui entendront cette émission et qui ont Instagram à se pencher sur cet homme et sur le travail de cet homme, Ahmed Mouine, Gaza Bird Singing. Et voilà, donc eux, c'est encore plus urgent, hein. C'est vraiment, c'est même pas une urgence, c'est une survie absolue. Et moi, ces gens-là m'obligent au respect, m'obligent à la conscience et m'obligent à la responsabilité de vivre et de regarder le monde et de regarder la vie avec amour, reconnaissance et résistance. Et la photographie fait partie de ça. Surtout la photographie des petites choses que personne ne pense à regarder.
Ces images ont-elles une destinée ?
Pour l'instant, elles existent sous forme de petits livres que je propose à la fin de mes lectures. Donc j'ai édité à compte personnel un petit livre qui s'appelle « Le paysage est intérieur ». Et donc c'est un poème que j'ai écrit et qui se déroule tout le long des photographies qui sont dans ce livre.
Au-delà de ce spectacle, donc demain soir au Café Théâtre Andarta, il y aura un temps d'échange avec le public et aussi une manière de te connaître un peu plus.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est aussi le plaisir de ce projet. C'est que moi, je travaille beaucoup au théâtre. Et au théâtre, on joue. Et puis, on a fini de jouer. Les gens sortent. Éventuellement, ils parlent un peu entre eux ou pas. Ils rentrent chez eux. Nous, on va manger ensemble avec l'équipe et on ne se croise pas. Et moi, j'avais vraiment besoin, je pense que c'est vital pour tout le monde, de se rassembler, de se parler, de s'écouter et de se taire aussi. Mais en tout cas, de recevoir et de donner ensemble. Après, donc après le spectacle, il y a, bah là, Andarta, c'est facile, il y a un bar, on a de quoi se restaurer. de quoi boire un verre et discuter ensemble. Moi, je propose aux gens de me laisser leur adresse mail pour que je puisse continuer à tisser et à ce qu'il puisse y avoir un maintien de cette activité par le fait de soutenir le projet. Évidemment, il y a un chapeau à l'issue de cette lecture, qui est un chapeau où les gens sont comment dire, invités à participer à justement la survie, à la vie, à l'existence et à la continuité, à la permanence de ce travail professionnel. Et puis, on discute ensemble, on échange, et on tisse un lien. Il y a des gens qui sont devenus des amis au fur et à mesure, des gens chez qui je retourne, des gens qui reviennent me voir, des gens qui suivent mes lectures, puisque je viens dans la Drôme, dans l'Ardèche, en Ardèche, en Isère régulièrement. Donc du coup, voilà, ça fait le petit lien.
Anne Cantineau, est-ce qu'il existe aussi une visibilité sur Internet?
Oui, alors, il y a le compte Instagram, qui est Anne DVRV. Il y a le compte Facebook, Anne Cantineau, la dévoreveuse. Et puis, il y a des choses sur YouTube aussi qu'on peut trouver, au nom de Anne Cantineau, la dévoreveuse. Et il y a un lien SoundCloud aussi. Alors ça, il faut que je l'envoie aux gens, je ne sais pas. Mais sur tous ces réseaux-là, on peut m'écrire en message privé et je peux envoyer le lien SoundCloud sur lequel, par exemple, il y a des chansons que j'ai écrites et que j'interprète, qui font partie de « On ne sait rien de la seconde qui vient ». Il y a des extraits d'autres textes. Enfin voilà, on peut trouver très facilement sur les réseaux.
Anne Cantineau, merci beaucoup.
Merci à toi, Yves. Merci beaucoup. Et ce soir?
À ce soir ou demain soir plutôt.
Ou demain soir, hein? Ah oui, c'est demain soir, c'est ça.
Et bon séjour en tout cas.
Merci infiniment. Au revoir.